France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que Donald Trump et Xi Jinping devraient se rencontrer en marge du sommet de l'APEC la semaine prochaine, les tensions sont à leur comble. Face à la hausse des droits de douane imposés par Donald Trump, Xi Jinping réplique en imposant des restrictions sur l'exportation de ces terres rares capitales dans l'économie mondiale. En retour, Trump menace de taxer les produits chinois à 100% dès le 1er novembre. Au-delà des hausses des droits de douane, donc, c'est une bataille pour l'hégémonie que mène Donald Trump. En faisant de l'économie une arme de puissance, le président américain remet au goût du jour la notion de géoéconomie, un concept qui a émergé il y a une trentaine d'années et qui semble plus que jamais d'actualité. Pour comprendre de quoi il s'agit, un invité ce soir, Cédric Tellen. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie et de géopolitique en classe préparatoire, auteur d'un ouvrage intitulé « Introduction à la géopolitique », une nouvelle édition apparue en septembre dernier. Et avec moi, comme chaque mercredi, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Je pense que je rencontrerai Xi Jinping. En tout cas, je serai au sommet. Mais il faut se rendre compte de ce qu'il a fait. Il a choqué tout le monde avec son annonce. Ce n'était vraiment pas raisonnable. On a tous été choqués ici. Ils sont sortis de nulle part avec tout leur concept d'import-export. Maintenant, on va voir ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai donné la date du 1er novembre pour une hausse des droits de douane pour les produits venant de Chine. On a de nombreux moyens de faire pression.
La voix de Donald Trump, doublé par Bertie Bourdon de l'équipe de Questions du Soir, Cédric Tellen. Si on fait l'exégèse de ce que vient de dire le président américain, il semble peut-être vexé par les propos, les décisions chinoises. Comment l'expliquer ? Cela ne lui ressemble pas.
Ce qui est frappant dans la séquence actuelle de guerre économique, c'est que les Chinois, jusqu'à présent, avaient fait montre de retenue et refusaient l'escalade commerciale. Il faut quand même rappeler que Trump avait débuté dès 2018 à relever les tarifs et à mettre un embargo partiel sur les semi-conducteurs. Les Chinois avaient toujours répondu avec mesure. Et là, dans la séquence actuelle, Xi Jinping a promis de répondre coup pour coup aux provocations américaines. Et c'est cette escalade-là qui surprend Trump, qui pensait avoir la force de son côté, hein, et être capable de contraindre les Chinois. C'est sans doute pourquoi il est vexé.
Julien Bisson.
Pourquoi est-ce que jusqu'ici, Donald Trump s'était montré plutôt conciliant avec la Chine par rapport à ce qu'on l'a vu avec l'Europe notamment, où les négociations sur les droits de douane ont été beaucoup plus sévères?
Alors, il faut voir que la Chine est un très très grand partenaire économique des États-Unis et que Trump voulait aller vers un deal. Donc, il a annoncé au printemps, le jour du Liberation Day, des taxes extrêmement élevées pour pouvoir ensuite négocier. Et ils étaient parvenus à un accord un peu plus tard sur une sorte de moratoire et des droits réciproques à hauteur de 10%. C'est donc la surprise avec cette escalade actuelle.
On connaît mieux, j'allais dire, la stratégie américaine que la stratégie chinoise en matière de guerre économique. Il faut donc nous expliquer, Cédric Tellen, quelle est la stratégie chinoise aujourd'hui. Lorsqu'on dit que Xi Jinping, la Chine, tente aujourd'hui d'organiser des restrictions sur les terres rares, de quoi s'agit-il? Quel est l'objectif? Quel est l'enjeu?
Alors, je pense qu'il y a un objectif assez large de la Chine, c'est de moins dépendre des échanges avec les États-Unis et plus globalement moins dépendre de la mondialisation. Et d'organiser autour d'elle aussi avec ses partenaires, je pense aux partenaires du BRIC Plus ou de l'OCS, sa propre mondialisation avec ses propres projets, hein, la Belt and Road Initiative par exemple. Ça signifierait une forme de découplage de la mondialisation, avec d'un côté les pays occidentaux qui échangeraient principalement entre eux, et de l'autre la Chine et ses partenaires. Cela dit, le découplage complet vis-à-vis des États-Unis n'est pas possible, puisque ça reste un très grand marché d'exportation pour la Chine. Dans ce cas-là, Xi Jinping a besoin d'avoir en main des mesures de pression sur les États-Unis. Avec les terres rares, on est quand même dans un affrontement entre, d'un côté, les semi-conducteurs de haute technologie sur lesquels Trump a mis un embargo en emportant avec lui, en embarquant avec lui, si j'ose dire, Taïwan et la Corée du Sud. De l'autre, la Chine répond avec les terres rares.
Mais vous le disiez, les terres rares, c'est pas une matière première comme les autres. Les terres rares, c'est absolument décisif, essentiel dans la chaîne de production mondiale. C'est peut-être un levier essentiel dans l'économie globale telle qu'elle est organisée aujourd'hui.
Alors, c'est déjà absolument fondamental pour fabriquer des semi-conducteurs et des produits électroniques, informatiques qu'on va retrouver dans les ordinateurs, dans les téléphones portables, etc. Et plus largement, dans toute une palette de production high-tech, aussi bien dans les radars que dans l'aéronautique, l'aérospatiale, c'est absolument crucial. Or, de ce point de vue-là, les États-Unis, les pays occidentaux avaient un peu renoncé à produire et avaient fermé leurs mines dans les années 90-2000. Aujourd'hui, il se pose la question de les rouvrir, sauf qu'entre-temps, le monopole de l'exploitation et surtout du raffinage est passé du côté de la Chine.
Julien Bisson.
Alors, on a des chiffres qui nous sont donnés par l'Institut Peterson d'économie internationale. Selon cet institut, les droits moyens sont de 57,6% sur les produits chinois aux États-Unis contre 32,6% appliqués par la Chine aux biens américains. Est-ce que la Chine est en mesure de tordre le bras américain pour rétablir la balance ? Est-ce que c'est son intention ?
Pour moi, les chiffres que vous donnez symbolisent le fait que la Chine voulait laisser une porte ouverte à la négociation. Je pense que maintenant, le torchon brûle entre les deux dirigeants.
C'est pas l'illustration d'un rapport de force, donc.
Si, c'est un rapport de force. C'est-à-dire, je pense que la Chine va remonter ses droits et de plus en plus redéployer son commerce et ses investissements hors des États-Unis. Mais c'est une stratégie de long terme, hein. Moins dépendre du marché américain pour la Chine. Une grosse partie de ses excédents dépend du marché américain. Donc, c'est une stratégie de plus long terme.
Ça veut dire que c'est la fin un peu de la stabilité sino-américaine qu'on avait pu constater depuis l'entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche ?
C'est ça, et d'autant plus que parallèlement, la Chine vend du bon du trésor américain sur les marchés de capitaux, cherche à dédollariser le système financier international. Donc je pense qu'il va y avoir d'autres dimensions et d'autres aspects de la guerre économique.
Alors, il y a un concept, je le disais, qui reprend des couleurs, Cédric Tellen, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est le concept de géoéconomie. Commençons par des éléments de définition. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de géoéconomie? Quelle est la différence, pour commencer, avec la géopolitique?
Alors, déjà, il faut revenir à la naissance du terme géoéconomics, qui prend le suffixe géo, comme dans géopolitique, rajoute l'économie. Bon, donc c'est une interaction entre la dimension géopolitique, y compris dans sa version militaire, stratégique, et à l'économie. Pour moi, c'est mettre du vieux vin sous de nouvelles étiquettes, parce que depuis très très longtemps, vous avez des penseurs, des économistes notamment, qui s'intéressent à la manière dont l'État peut utiliser l'économie comme arme de puissance. C'était déjà le cas à l'époque moderne, au temps moderne, lorsque les premiers mercantilistes français réfléchissaient à ce type de politique. Donc, simplement, on parlait pas de géoéconomie, on parlait d'économie politique. Et de la même manière, les premiers géopolitologues, puisque vous me posez la question des liens avec la géopolitique, si vous prenez l'inventeur du terme géopolitique en allemand, Rudolf Gehlen, qui travaillait aussi sur l'État, pensait aussi à la manière dont l'État pouvait utiliser l'économie comme instrument de puissance. Donc c'est pas vraiment nouveau. Ce qui est nouveau et qui remonte aux années 90, c'est de passer de économie politique, economic statecraft, à géoéconomics. Et ça, on le doit à Edouard Ludwak aux États-Unis. Alors, ça, c'est la première géoéconomie. C'est celle qui, sous la plume de Ludwak, est censée remplacer la géopolitique. Puisqu'à l'époque, les rapports de force géopolitiques, du fait de la fin de la guerre froide, du fait de l'improbabilité qu'il y ait des guerres, des affrontements militaires entre grands États, puisqu'il n'y a plus les différences idéologiques, et puis il y a la dissuasion nucléaire.
C'est la fameuse fin de l'histoire, dit-on, pense-t-on ?
C'est ça. Ludwak s'inscrit dans les pas là de Fukuyama sur la fin de l'histoire et pense que la géoéconomie va remplacer la géopolitique. Là, on n'en est plus là. hein, puisqu'on voit bien que la géoéconomie n'a pas remplacé la géopolitique. Les États-Unis et la Chine poursuivent par l'arme économique des objectifs qui sont politiques aussi et géopolitiques aussi, hein, le contrôle des ressources, etc., ou la domination mondiale. Et donc, on verrait plutôt la géoéconomie comme un adjuvant de la géopolitique.
On va tout de même remonter le fil de ce concept avec vous, Julien Bisson.
Oui, on va remonter assez loin avec Montesquieu. On parlait des mercantilistes tout à l'heure. Là, c'était de la philosophie politique. Dans De l'esprit des lois, Montesquieu estimait que l'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre. A priori, si on suit Montesquieu, les relations commerciales devraient justement apporter la paix et non la guerre. Comment est-ce que ça veut dire que c'est une, on est loin là d'un regard, d'une vision qui serait celui de la géoéconomie?
C'est la phrase de Montesquieu, la pensée de Montesquieu a sous-tendu toutes les théories libérales et néolibérales du commerce. Qui enseignaient, notamment à l'époque de Smith, de Ricardo, qui se sont aussi intéressés à la dimension politique du commerce, hein, au XIXe siècle, l'idée que le commerce international est un jeu à somme positive, que toutes les nations qui s'intègrent dans le commerce ont à gagner, vont s'enrichir. Hein. Et effectivement, là, c'est une rupture complète par rapport à cette vision-là. Il y a des gagnants et des perdants à l'échange international. L'échange international n'est pas un jeu à somme positive, mais un jeu à somme nulle. Et donc là, l'enjeu, c'est de faire partie des gagnants et non pas des perdants. Donc ça dessine une sorte d'ère post-libérale ou post-néolibérale, marquée par le retour du mercantilisme, du protectionnisme, du rapport de force.
Je voudrais vous faire entendre une voix, celle du président Bill Clinton. C'était en 1993, lors d'un discours à la Banque d'import-export des États-Unis.
In Russia, energy is where the money is.
En Russie, l'énergie est le principal moteur de l'économie. Si nous parvenons à trouver une solution, nous pourrons établir un partenariat majeur, extrêmement bénéfique pour l'économie américaine et pour les Russes. À différents moments de ce siècle, notre pays s'est révélé être un catalyseur de réformes mondiales. Nous avons affronté le fascisme et le communisme et contribué à la construction des institutions internationales après la Seconde Guerre mondiale qui ont permis tant de progrès dans le monde non communiste. Aujourd'hui, grâce à l'effondrement du communisme, elles s'épanouissent pleinement.
Ce que je trouve intéressant, Cédric Thélène, avec ce concept de géoéconomie, c'est qu'il tempère, bat en brèche, même l'idée selon laquelle, dans les années 90, certains pouvaient même croire à l'idée de fin de l'histoire. Et je pense notamment aux États-Unis. Preuve en est ce discours. Les États-Unis ne croyaient pas du tout à la fin de l'histoire. Ils étaient en train de déplier les dispositifs économiques pour permettre de poursuivre leur progression et une forme d'impérialisme avec ces armes nouvelles.
Oui, l'époque de Clinton est marquée par le changement de doctrine stratégique. On est passé du containment de l'époque de guerre froide à l'enlargement post-guerre froide. C'est le moment où les États-Unis pensent qu'ils vont pouvoir étendre au monde entier leur modèle économique. Et c'est vrai qu'ils changent d'ennemi, d'une certaine manière.
Et ils changent d'armes également.
Ils changent d'armes, ils changent d'ennemis, ils changent d'armes. C'est aussi dans la psychologie américaine de toujours se donner le challenge de battre un ennemi. Et il est frappant de voir que dans les années 90, c'est le Japon qui joue à l'époque le rôle d'épouvantail que joue la Chine aujourd'hui, avec des craintes très importantes qu'une guerre, pas seulement économique, mais une guerre militaire, un affrontement armé, se déclenche avec le Japon du fait des conquêtes économiques du Japon, industrielles notamment, des investissements réalisés aux États-Unis. Donc c'est vrai que là, il y a un pivot du géopolitique vers le jeu économique. Mais par rapport à la situation actuelle, il y a quand même une grande différence. C'est que les États-Unis sont beaucoup plus en position de force qu'à l'heure actuelle.
Julien Bisson.
Si on se rapproche un petit peu de nous, si on change de décennie, Cédric Thélène, on arrive en 2008, c'est la crise financière. En quoi est-ce que cette crise financière va finalement rebattre les cartes dans le jeu géoéconomique qui est alors en jeu?
Pour moi, la crise des subprimes, c'est un accélérateur sur le plan géopolitique et géoéconomique, puisque c'est le moment où les pays émergents, qui ont vécu la crise, hein, qui ont été frappés par la crise, mais qui l'ont surmontée assez rapidement, renforcent encore leur pouvoir sur le plan économique et s'organisent politiquement, notamment avec la création du groupe des BRIC en 2009. Là, il y a un changement de ce point de vue-là.
On appelle d'un mot hein, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud.
L'Afrique
pas
du
la Chine,
Sud.
Mais l'Afrique du Sud.
Ouais, ouais, la Chine, Afrique du Sud. Aujourd'hui, BRIC+, parce qu'il y a ils sont une dizaine, donc ils s'étendent. Hein. Enfin, en gros, c'est le monde des émergents qui aujourd'hui cherchent à prendre la tête d'un Sud global qui serait dans une stratégie de désoccidentalisation du monde. Donc de ce point de vue-là, je pense que la crise des subprimes, c'est un accélérateur, aussi en affaiblissant les États-Unis et l'Union européenne, qui a connu ensuite les années difficiles de la crise des dettes souveraines de la zone euro.
Est-ce que la géoéconomie est un pragmatisme, c'est-à-dire que les dirigeants au pouvoir, notamment américains, européens, chinois, avancent petit à petit en fonction, j'allais dire, des avantages économiques qui se présentent à eux, ou bien la géoéconomie, c'est d'abord une doctrine, une théorie que l'on met en œuvre à l'image d'une stratégie militaire. Je vais vous citer, voici ce que vous écrivez, Cédric Tellen, dans votre ouvrage. L'argent en géoéconomie n'est plus le nerf de la guerre, mais une extension du domaine de la guerre. Les spécialistes de la guerre économique la considèrent comme un prolongement de l'action militaire ou comme un substitut à celle-ci. Selon les cas, c'est la guerre par d'autres moyens. Alors est-ce qu'on est là dans la théorie justement géoéconomique ?
Il y a un peu de théorie et beaucoup de pragmatisme aussi, parce que si on réfléchit aux rapports de force internationaux dans l'interrelation entre la géopolitique et l'économie, on ouvre tout un nouveau champ de réflexion, un champ doctrinal, qui est encore très largement en friche en France, hein, je vous le cache pas, mais qui est très développé aux États-Unis, au Royaume-Uni et même en Allemagne, parce qu'il y a de très très bons chercheurs et même des conférences annuelles de géoéconomie. Donc nous, on est un peu en retard par rapport à ça, mais ça doit être aussi un guide pour l'action, c'est-à-dire ne pas devenir les, je pense aux Européens et aux Français particulièrement, les victimes collatérale de la guerre économique, parce que pour mener la guerre économique, il faut s'en donner les moyens. Je me rappelle un article il y a quelques années d'Ali Laidi, qui est un grand spécialiste de guerre économique, qui présentait l'Union européenne comme un bisounours de la mondialisation, parce qu'elle n'avait ni la doctrine, ni les armes pour se battre dans la guerre économique, hormis la dimension normative, son pouvoir normatif, mais qu'elle peine à faire triompher au regard de la politique des États-Unis et de la Chine, on le voit bien.
Et c'est exactement sans doute ce que vient illustrer l'accord en matière de droits de douane entre les États-Unis et l'Europe. Beaucoup ont parlé à ce sujet d'une humiliation pour l'Union européenne. Beaucoup ont expliqué que la Commission européenne était incapable de devenir un organe de puissance vis-à-vis de l'Europe. Est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit ?
Le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle doit décider à 27, que les processus sont longs et que, de manière plus profonde, l'Union européenne croit beaucoup dans la vertu des institutions, s'appuyer sur les institutions comme l'OMC, par exemple, qui aujourd'hui est en panne et est contournée par les grandes puissances qu'on a évoquées, les grandes puissances de guerre. Donc, elle parle pas le même langage. Et est-ce qu'il faut lui souhaiter, elle aussi, de parler ce langage de la force ou de rester sur des valeurs plus positives, c'est-à-dire faire plutôt une géopolitique de la coopération, enfin plutôt une géoéconomie, je vais le dire autrement, une géoéconomie de la coopération et de la conciliation plutôt qu'une géoéconomie de la force. C'est là-dessus, par exemple, que travaille une Britannique qui s'appelle Marianne Schneider-Petzinger, qui est une des géoéconomistes les plus connues en Angleterre, qui est spécialiste de l'OMC, qui travaille sur les possibilités de réformer l'OMC comme organe de paix contre la guerre économique.
Julien Bisson.
La crise Covid a mis en lumière la dépendance qui peut être cruciale dans une économie mondialisée. Est-ce que la géoéconomie, c'est aussi un aspect de la sécurité nationale des nations en compétition ?
La géoéconomie ouvre comme priorité absolue pour les États ou les groupes d'États, quand on parle de l'Union européenne, à la fois la sécurité et la souveraineté. On va de plus en plus parler de sécurité économique et de souveraineté économique. On l'a vu au moment de la crise du Covid, avec la rupture des chaînes d'approvisionnement sur des produits qui étaient parfois vitaux, hein, comme dans la médecine. Avec la guerre en Ukraine, on le voit aussi, c'est encore un palier qui est franchi, hein, avec les dépendances pour l'Europe au gaz russe. Et là aussi, la remise en cause des chaînes d'approvisionnement globales. À mon avis, du point de vue des États, puisqu'on parlait de pragmatisme, hein, la traduction politique de la guerre économique actuellement, ça va être des politiques de sécurité et de souveraineté qui doivent s'articuler l'une à l'autre. On l'a vu par exemple, pour donner une idée plutôt positive sur l'UE.
L'Union européenne.
On a vu en 2022 un plan Repower qui articule la sécurité et la souveraineté, qui vise notamment à se passer de gaz russe, à réorienter les approvisionnements, mais aussi à faire des achats groupés, des achats communs, réorganiser le marché de l'électricité. Donc il y a des projets, et à mon avis, il faut coupler sécurité, souveraineté. Et je voudrais rajouter aussi qu'il ne faut pas oublier la dimension de l'écologie, parce qu'à force de parler de guerre économique et de sécurité, de souveraineté des approvisionnements, on en oublie les exigences de transition qui, là, sont reléguées. Vraiment, on en parle beaucoup moins maintenant qu'il y a cette guerre économique qui s'aggrave.
Est-ce que la façon dont Donald Trump tente de placer sous sa coupe les grandes entreprises américaines et plus encore les grandes entreprises technologiques, les GAFAM, la façon dont il met en scène aussi sa proximité avec ces très grands dirigeants d'entreprises, est-ce que c'est cela aussi une part de la géoéconomie qui consiste à utiliser les entreprises dont on dispose pour agir à l'international ?
Ça marche dans les deux sens, parce que les grandes multinationales, hein, les sept magnifiques, là, se servent aussi beaucoup de Trump. À mon avis, la guerre économique, c'est de nouvelles synergies entre l'État, qui s'était mis en retrait pendant toute la période de libéralisme triomphant et qui fait une forme de retour dans l'ordre économique, et ces nouvelles grandes entreprises qui ont construit des situations de quasi-monopole, qui sont sur des marchés de moins en moins concurrentielles, hein, puisqu'elles sont les vainqueurs qui emportent tout, hein, winner takes all. Et à mon avis, c'est la nouvelle articulation entre l'État et les entreprises. L'instrumentalisation, à mon avis, joue dans les deux sens.
Julien Bisson.
Autre cas concret pour Trump, quand Trump menace d'annexer le Canada, le Groenland, le canal de Panama, est-ce qu'il fait de la géopolitique ou de la géoéconomie ?
Alors, il fait de la géo. De la géographie tout court, c'est vraiment le retour du territoire. Ça, c'est vraiment frappant. Et les objectifs sont à la fois géoéconomiques, puisqu'il s'agit de mettre la main sur des territoires qui regorgent de ressources, comme dans le cas du Groenland, ou qui sont des passages stratégiques pour les échanges, comme dans le cas du canal de Panama. Dans le même temps, il poursuit pas que des objectifs économiques de prospérité et de réindustrialisation et d'emploi. Il poursuit aussi des objectifs politiques de domination. Là, on est vraiment à l'articulation entre le néo-mercantilisme et le néo-impérialisme.
Une voix, une autre, celle de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle s'exprimait le 17 septembre dernier au sujet du bilan des sanctions économiques contre la Russie.
Notre analyse économique est limpide. Nos sanctions affectent gravement l'économie russe. Le taux d'intérêt y est de 17%. L'inflation reste élevée. L'accès de la Russie au financement et aux revenus ne cesse de se réduire. Et l'économie de guerre de la Russie, qui est en surchauffe, atteint ses limites. Fait encore plus remarquable, lorsque nous discutons directement avec des partenaires qui parlent avec la Russie, ceux-ci affirment que l'allègement des sanctions figure parmi les premières demandes russes. Nous savons que nos sanctions constituent un outil efficace de pression économique. Et nous continuerons à les employer jusqu'à ce que la Russie s'assoie avec l'Ukraine à la table des négociations pour parvenir à une paix juste et durable.
Julien Bisson vous interroge.
Ces sanctions prises contre la Russie depuis 2022, Cédric Tellens, font-elles partie de la géoéconomie dont nous avons parlé jusqu'ici ?
Oui, elles font pleinement partie de la géoéconomie et elles en représentent maintenant un des champs les plus travaillés hein, par les géoéconomistes ou même par les historiens de l'économie. Les quelques rapports que j'ai lus sur la question qui prennent en compte plusieurs séquences de sanctions dans l'histoire depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours montrent que à peine un tiers des sanctions sont efficaces. Et à mon avis, on peut pas se limiter à des sanctions économiques. On le voit bien avec l'Union européenne qui en est cet été à 18 trains de sanctions successifs, et qu'il parvient pas à faire plier la Russie. Contrairement à ce que dit Ursula von der Leyen, la croissance économique russe est bonne parce que la guerre, cette fois la guerre, la vraie, l'affrontement militaire apporte de la croissance et la Russie a été capable de réorganiser ses échanges avec la Chine notamment, avec l'Inde, avec ses partenaires d'Eurasie et des BRIC. Je suis pas certain que les sanctions, là encore, soient efficaces.
Merci beaucoup, Cédric Thélène, d'être venu nous parler de géoéconomie, de ces concepts qui reprend des couleurs depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et de géopolitique en classe préparatoire, auteur d'une introduction à la géopolitique qui vient de reparaître en septembre dernier. Je me tourne vers vous, Julien Bisson, car vous avez aussi une parution cette semaine qui met en lumière le visage sombre de Vladimir Poutine, je crois.
Oui, eh bien on reste avec la Russie. Sommes-nous en guerre avec la Russie alors que des drones survolent l'Europe, alors que le trolling se fait sur les réseaux sociaux et que des opérations de désinformation massive sont à l'œuvre? Et si la France était l'ennemi numéro 1 de la Russie?
Voilà la une du 1 hebdomadaire. Et merci à celles et ceux qui ont fait penser, imaginer cette émission. Bertie Bourdon, Roxane Poulain, Rodi Eken à la réalisation. Léa Racine.